Vous êtes sur RTL.
Le journal, c'est avec vous, Hortense Crépin, bonjour.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
À la une, les premières injections en France du vaccin contre le coronavirus.
Elles marquent le coup d'envoi de la campagne de vaccination, un lancement en même temps que d'autres pays de l'Union européenne. Les Allemands ou les Slovaques ont démarré dès hier. Chez nous, les premiers à recevoir le produit de Pfizer-BioNTech vont être des résidents et des soignants de deux EHPAD, l'un à Sevran, l'autre à Dijon. Et là, tout est organisé sous haute sécurité avant les injections cet après-midi, Doris Henry.
Six flacons ont été livrés hier à la mi-journée, transportés dans une camionnette blanche venant de Paris, camionnette escortée par la gendarmerie puis par la police. L'EHPAD Champmaillot, qui dépend du CHU de Dijon, se prépare depuis plus d'une semaine à cette campagne de vaccination. La mise en place de la logistique, la préparation de la salle dédiée et le recueil des consentements. Alors sur la centaine de résidents, pour l'instant, on ignore encore combien ont accepté de se faire vacciner. Les premières injections qui sont prévues à 14h cet après-midi. En attendant, les précieuses doses ont été stockées dans un lieu tenu secret au sein du CHU Bourguignon, dans une région de France actuellement la plus touchée par le virus.
Doris Henry pour RTL.
Alors ça, c'est ce qui concerne le lancement symbolique des injections, Hortense, mais la cadence des vaccinations, elle, va s'accélérer.
Dès demain et toute la semaine prochaine, des résidents dans 23 autres EHPAD vont recevoir le produit conçu par Pfizer-BioNTech, et ça près de Lyon, Tours, mais aussi Lille. Là-bas, un super congélateur est installé pour pouvoir stocker les doses et les conserver à moins 80 degrés, Antoine Decarne.
Dans la pharmacie du CHU Lillois, il ne devrait pas y avoir de soucis de stockage, car si le nouveau supercongélateur n'est pas impressionnant par sa taille, il peut accueillir jusqu'à 300 000 doses de vaccin.
Sachant que la taille fait à peu près 2 cm, un flacon maximum, vous voyez que dans une enceinte comme celle-là, on va en mettre beaucoup.
Le professeur Pascal Audoux est le chef de l'Institut de pharmacie. Il décrypte ce nouveau frigo essentiel à la logistique de vaccination.
Vous voyez, c'est une porte très épaisse qui s'ouvre, dans laquelle ensuite on a une deuxième porte. On se retrouve dans une très grande enceinte en dessous. Vous avez les deux compresseurs qui vont faire tomber la température pour obtenir le moins 80 dans cette enceinte.
Et ce stockage à moins 80 degrés permettra d'approvisionner tout le territoire. Il fait donc l'objet d'une très grande protection dans une pièce totalement sécurisée.
Aujourd'hui, vous êtes là, mais vous êtes les derniers à pouvoir vous approcher de ce congélateur. La salle est totalement fermée et destinée qu'à quelques personnes.
Mais ces doses sortiront rapidement de ce super congélateur, car dès le début de semaine, les premières vaccinations devraient avoir lieu dans plusieurs EHPAD du secteur.
Antoine Decarne à Lille pour RTL. Et dans le même temps, Olivier Véran déclare dans le journal du dimanche « Ce vaccin va sauver des vies » et d'ajouter qu'un troisième confinement serait possible si la situation épidémique devait s'aggraver, tout en précisant ça ne veut pas dire qu'on a décidé, mais qu'on observe la situation heure par heure. Les mots sont insuffisants pour exprimer sa reconnaissance, annonce dans un communiqué de l'avocat de la compagne du forcené de Saint-Just qui a tué 3 gendarmes. C'est elle que les militaires venaient secourir dans la nuit de mardi à mercredi dans cette commune du Puy-de-Dôme. Depuis plusieurs années, elle subissait des violences physiques et psychologiques de la part de l'auteur des faits. Demain, une cérémonie d'hommage aux 3 gendarmes a lieu à Amber en présence du ministre de l'Intérieur et de la ministre des Armées. En bref, le gouvernement va pouvoir adapter les modalités du baccalauréat 2020 et d'autres examens en fonction de l'évolution de la pandémie, jusqu'à 2 semaines avant le début des épreuves. C'est ce qu'indique une ordonnance publiée au journal officiel.
Cela fait aussi partie des conséquences de l'épidémie. C'est devenu un automatisme pour beaucoup au moment de régler à la caisse. En carte bleue, le sans contact.
Oui, poser simplement sa carte sur la machine au lieu de devoir la toucher pour taper son code. Le principe plus hygiénique s'est multiplié ces derniers mois. En mai, la Fédération bancaire française a d'ailleurs rehaussé de 30 à 50 euros le montant maximum pour pouvoir payer sans contact, qui connaît donc de plus en plus d'adeptes. Exemple à Auray, dans le Morbihan, avec Nicolas Bobby.
Cette cliente vient d'acheter sous les halles du saumon frais.
Sans contact, madame ?
Bien sûr, merci. En ce moment, l'hygiène, et puis c'est plus rapide.
Le sans-contact a donc la cote en Bretagne, Franck Herry de la saumonnerie du Loc.
90% des paiements à la carte, sauf bien sûr quand le montant dépasse les 50 euros.
Pour certains seniors, comme François, 78 ans, l'utilisation du sans-contact est devenue monnaie courante.
Que ce soit la charcuterie, le poisson, le boucher aussi, tout. Je fais sans contact. Si, c'est plus pratique, ouais. Ouais. Surtout depuis que c'est jusqu'à 50 euros.
Après la crise sanitaire, Thérèse conservera cette habitude.
Je vais commander une bûche pour le 31, donc oui, je vais la payer sans contact. Bah, l'avantage, c'est qu'on n'a pas d'espèces sur soi. Et puis, depuis le confinement, bah, c'est devenu une habitude.
Madeleine ne veut pas en entendre parler.
Eh ben, je l'ai pas de sans contact sur ma carte. Hein?
C'est un moyen comme un autre de ne pas oublier son code secret.
Nicolas Bobby à Auray pour RTL.
Une pause et dans un instant, les suites de l'enquête après l'explosion il y a deux jours à Nashville aux États-Unis.
RTL Matin.
RTL Matin.
Avec Agnès Bonfillon.
Et avec Hortense Crépin pour la suite du journal. Aux États-Unis, l'explosion de vendredi à Nashville serait un acte délibéré.
C'est ce qu'annonce la police. L'explosion dans une mise en scène glaçante. Un enregistrement audio diffusé dans le camping-car qui a pris feu annonçait un compte à rebours. Sur place, pas de victimes, mais les dégâts sont nombreux. Dans le Tennessee, les investigations se poursuivent. Les enquêteurs ont notamment fait une perquisition chez un homme soupçonné d'être lié à l'affaire, Karine Otten.
Oui, un homme dans la soixantaine qui, leur a-t-on dit, possède un camping-car semblable à celui qui a explosé le matin de Noël. Ils n'ont pas encore réussi à le retrouver, pas de traces non plus du véhicule qui a été vu dans sa cour régulièrement. Mais ils ont fouillé toute sa maison située à 50 km au nord de Nashville. Il faut savoir qu'un impressionnant dispositif d'enquête a été mis en place. 250 agents du FBI ont été mobilisés sur l'affaire. Ils sont en train de suivre, passer au crible, près de 500 pistes et informations reçues depuis deux jours. Mais la police l'avoue, pour l'instant, aucune idée de qui est derrière cette explosion ni du motif de la revendication. La ville se remet peu à peu du choc. 41 magasins et entreprises ont été abîmés. Le gouverneur a aussi demandé à Donald Trump hier de déclarer l'état de catastrophe d'urgence au Tennessee et d'envoyer plus d'aide de Washington, étant donné la magnitude des destructions.
Karine Otten aux États-Unis pour RTL.
Retour en France, c'était il y a près de six mois, l'incendie de la cathédrale de Nantes.
Les flammes ont ravagé une partie de l'édifice gothique. Les premiers travaux pour le rénover ont démarré. L'heure est donc aux opérations de déblaiement et comme pour la restauration de Notre-Dame de Paris, le chantier doit se faire sous haute sécurité à cause de la pollution au plomb, Patrice Gabart.
Dans la cathédrale, les stalles ont brûlé, le grand orgue est détruit à 90% et la verrière de la façade ouest a explosé. C'est un enchevêtrement de bois calciné, de vitraux et de débris couverts de suie, tandis que le métal des tuyaux de l'or qui ont fondu se retrouve en flaques sur le sol de la tribune à 7 mètres de hauteur. Avant de restaurer, il faut donc déblayer un chantier sous haute protection sanitaire avec des unités de décontamination pour les personnels. Valérie Godard, conservatrice régionale des monuments historiques, à la direction des affaires culturelles des Pays de la Loire.
Nous sommes dans un chantier qui est pollué par le plomb. Donc tous les travaux seront en mode pollué. Les surbottes, les gants et également un masque à assistance respiratoire. Parce que quand on va déblayer les débris, on va ensuite les trier. Et quand on va les trier, ça va réémettre du plomb. Et il y aura en même temps des essais de dépollution qui seront menés sur le sol de la cathédrale.
Des essais pour préparer le prochain chantier, celui de la décontamination au plomb, des sols, des murs et peut-être même des voûtes de la cathédrale. Deuxième chantier qui doit démarrer fin février, début mars 2021.
Patrice Gabart à Nantes pour RTL.
En sport, du rugby cet après-midi.
C'est notre Boxing Day à nous, Agnès, avec la 12e journée du Top 14 en hommage aux soignants et en association avec la Fondation Hôpitaux de France. Ça démarre à 14h avec la rencontre entre La Rochelle et Montpellier. Attention, Castres-Bayonne est reporté pour des cas de Covid côté basque. Et puis sur la mer, le Vendée Globe et Yannick Bestaven toujours en tête de la course devant Charlie Dalin et Jean Le Cam. Les bateaux se trouvent pour le moment dans le Pacifique et ont dépassé la Nouvelle-Zélande.
Et puis à 18h30, sur RTL, ne manquez pas la grande rétro 2020 du service des sports.
Retour sur les grands moments de l'année sportive marqués par le coronavirus avec deux invités exceptionnels, le champion du monde de cyclisme Julian Alaphilippe et le biathlète Martin Fourcade. Et puis les obsèques de Claude Brasseur se tiendront à Paris mardi à 11h en l'église Saint-Roch avant son inhumation au cimetière du Père-Lachaise. Le comédien connu pour ses rôles dans Un éléphant, Ça trompe énormément ou encore dans La Boum, c'était un mardi dernier à 84 ans.
Merci beaucoup Hortense Crépin. On vous retrouve évidemment à 9h.
À 9h, tout à l'heure, promis. Bien sûr.
Tout de suite, les délires dont refait le match.